Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité régionale, nationale et internationale. Et comme à chaque semaine, j'ai une panéliste avec moi de grand renom. J'ai nommé Joannie Riendeau. Bonjour Joannie, comment ça va?
Bonjour Pierre, je suis toujours comblée quand tu me nommes de cette façon le matin.
Oui, attends, je vais essayer de trouver des choses encore plus drôles à dire à ton sujet.
Mais
là,
oui.
Je me retiens. Grosse semaine d'actualité. Grosse semaine, pas qu'on a tant de sujets que ça, mais on a des sujets relativement importants.
Oui.
On va y revenir, mais on va commencer tranquillement avec l'actualité locale. Ça fait 2 ans, en fait, qu'on a mis en place la stratégie de main-d'œuvre. J'aimerais ça que tu nous en parles.
Bien, la stratégie de main-d'œuvre, tu sais, premièrement, bonne semaine, c'est super. On commence le mois d'octobre et le mois d'octobre, en 2018, on a eu un gros lancement auprès de l'ensemble du comté Robert-Val. C'était la stratégie de main-d'œuvre « Ose le pays des bleuets ».
Oui.
Donc, c'est quand même une énorme structure qu'on a décidé de démarrer.
Oui, on a même fait une série au complet ici, là-dessus, « Ose le pays des bleuets ».
Oui, puis il y a plein de nouveautés qui s'en viennent aussi, parce que ce qui est le fun dans cette stratégie-là, c'est qu'il y a plusieurs éléments et ça continue à vivre et à augmenter. Mais 2 ans, c'est quand même une bonne année pour faire un bilan aussi, parce qu'on peut faire la comparaison entre la première année d'existence puis la deuxième. Puis cette année, elle quand même bat des records auprès des organismes d'attraction d'employés.
Donc, ça va bien.
Ah, ça va plus. Bien, ça va bien dans sa mission première, qui est celle d'attirer et de retenir des travailleurs de qualité. Donc, ça va très bien dans le sens où, pour être très proche de l'organisation, pour travailler moi-même dans Porte ouverte sur le lac, qui est porteur de la mission telle quelle, bien, l'année fiscale commence du 1er avril au 31 mars. Et tous les objectifs d'attraction de personnes qui viennent s'établir puis qui s'établissent pour de longue durée ont été atteints au début septembre.
OK. Donc, il nous reste encore du temps pour améliorer statistiques. En fait.
Oui, bien, c'est ça. Donc, pour nous, qui est à l'intérieur de l'organisation, on est 5 mois d'avance. On est 7 mois d'avance sur les statistiques, sur nos attentes en matière de migration de jeunes professionnels 18-35 ans avec place aux jeunes en région ou encore de personnes immigrantes. On doit quand même donner 2 éléments qui sont assez importants là-dedans. La première, c'est qu'on a quand même, avec la structure Ose le pays des bleuets, avec la présence dans la première année dans des salons carrières, les recrutements internationaux qu'on a vus, qui ont quand même fait beaucoup, puis la visibilité qu'on a donnée au pays des bleuets puis au comté Robert-Val de cette façon-là, bien, on a quand même eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues s'établir, des travailleurs internationaux, des jeunes professionnels de tout milieu, de différents domaines, on a été capable quand même de les attirer sur notre territoire. Donc ça, c'est déjà un super de bon point. C'est un bel accomplissement. Ça, c'est déjà génial. On leur fait tomber en amour avec le pays des bleuets, puis on les fait s'enraciner aussi. Donc ça, c'est déjà super. Dans la mission première. Mais en plus, on a eu, comme tu l'as dit, la série télévisée « Ose le pays des bleuets ». Et il a démarré la semaine dernière « On jase le pays des bleuets ». Qui est un nouveau podcast fait par l'équipe pour parler du pays des bleuets, autant pour les personnes qui habitent déjà ici, donc par exemple les défis de l'intégration des personnes migrantes, autant des employeurs avec des bonnes pratiques de ressources humaines, les bons coups en matière d'intégration, les activités de réseautage, donc tout ce qui est en lien avec une intégration efficace et pas juste efficace, intéressante, agréable pour les personnes qui viennent s'installer. Parce que c'est bien beau attirer des talents, mais si on ne les garde pas, on n'est pas mieux avancé. On n'est pas plus avancé. Donc, la stratégie donne déjà beaucoup là-dessus.
Comment on fait pour dire, OK, viens t'installer, mais comment on fait pour s'assurer qu'ils restent?
Bien, ça, c'est encore le travail de Ose le pays des bleuets. C'est pas juste les attirer. C'est par exemple, les membres vont organiser des activités de réseautage entre nouveaux arrivants et de personnes déjà sur place. Il y a eu pendant longtemps, et j'espère que ça va continuer, mais après COVID, des activités où les gens de Ose le pays des bleuets donnaient des gratuités pour aller voir l'impro, pour aller voir des pop quiz, donc pour s'intégrer dans les milieux, dans les activités culturelles. C'est une excellente façon de réseauter hors du travail. Puis il y a aussi, on les encourage à faire du bénévolat aussi. parce qu'on ne veut pas être le nouvel arrivant tout le temps. On veut pas, c'est une façon de s'intégrer, c'est pas toujours être aux yeux des personnes qui sont déjà résidentes, le nouvel arrivant.
On veut s'intégrer, participer à la vie communautaire. En
fait. Oui, puis se faire des amis, parce que lorsqu'on s'intègre dans un nouveau milieu, on a, pour l'avoir vécu 5 fois différemment, on a travail, maison, travail, maison, travail, maison, travail, maison. Si ça va pas bien au travail, la maison se déplace. Mm-hmm. La famille se déplace, on change de place. Mais le travail de hausse de PIDBE, oui, c'est d'attirer les bons candidats, mais de donner un autre point d'accroche, le milieu social. Donc, le bénévolat, on se sent important. On demande des compétences, on échange des compétences, puis on réseaute avec des personnes qui sont à l'extérieur du travail aussi. Okay. Donc, ça donne beaucoup d'avantages à la personne, puis ça donne beaucoup d'avantages aussi au milieu pour pouvoir bénéficier des talents sans être une entreprise aussi. Parce qu'un comptable, par exemple, n'est pas absolument... il peut être trésorier ou même bénévole à la soupe populaire. Il peut participer, il va pouvoir connaître un peu plus le milieu puis réseauter avec les gens du milieu. Parce que ça, c'est un défi au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est très accueillant, mais on est dur sur la rétention. Parce qu'on a déjà nos petits milieux, on est bien accueillant sur nos milieux de travail, on est bien accueillant, mais c'est dur de dire « Hey, on va prendre une bière après le travail ». C'est dur.
Non, mais j'ai des étudiants étrangers qui venaient et disaient « Les Québécois, vous êtes vraiment gentils, mais ça finit quand les heures de cours terminent. »
C'est en plein ça, puis c'est pas un défaut.
Mais non, c'est normal. On a chacun nos cercles sociaux.
C'est une différence culturelle, puis c'est pas un défaut. C'est quelque chose, si on est prêt à réseauter, mais c'est une manière agréable, le bénévolat, parce que c'est souvent là qu'on commence à avoir des relations plus intimes hors du travail ou des études et autres. Donc ça, c'est encore le travail de Ose le Pays des Bleuets.
Wow.
Et Ose le Pays des Bleuets aussi travaille avec les différentes entreprises participantes pour, par exemple, les colloques de gestion des ressources humaines pour apporter de nouvelles pratiques, parce qu'à force de travailler avec ces nouveaux arrivants-là, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas que le salaire, même que le salaire est souvent le quatrième. Le quatrième point dans la sélection d'un emploi, ça peut être la flexibilité, les défis, la possibilité de monter plus vite, une reconnaissance des compétences. Donc, tout ça, les conciliations travail-famille, le coût de la vie. Il y a tellement de choses qui passent avant le salaire. Parce que, tu sais, qualité de vie, c'est pas gagner plus.
C'est
profiter plus.
Ouais.
C'est profiter de la vie plus, ben c'est le genre de choses que Ose le Pays des Bleuets a apporté. Donc, on parle pour la MRC Maria Chapdelaine. Pour la MRC Maria Chapdelaine, si je me souviens bien les chiffres, c'est plus de 45 familles qui sont venues s'établir depuis janvier.
C'est très chouette.
C'est énorme. Puis pour la MRC Domaine du Roi, c'est plus de 38. Puis ça, on ne compte pas les étudiants internationaux du cégep de Saint-Félicien, parce que les étudiants ne sont pas encore sur le marché du travail de manière active. Oui. Mais on travaille quand même avec eux afin qu'ils s'établissent durablement ici. Parce que c'est des personnes qui sont diplômées ici.
C'est génial ça! On espère que ça va continuer et que vous allez continuer d'avoir de bons résultats.
Bien, je dirais chapeau à toute l'équipe, parce que c'est quand même en 2 ans, à porte ouverte sur le lac, il y a eu quand même beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de changements. Tu sais, une stratégie de main-d'œuvre de cette ampleur-là, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu, surtout pas dans notre territoire. Puis avec des attentes aussi importantes, parce que d'un côté, on attend des personnes qui vont être prêtes à faire du travail actif. Mais j'apprécie beaucoup l'équipe dans laquelle je travaille parce qu'on a, nous, à cœur, le projet de vie de nos participants. Ouais. Donc ça, je félicite toute l'équipe parce que dans le milieu qu'on est, c'est pas toujours facile de privilégier le milieu de vie, la qualité de vie de nos participants. Mais grâce à l'équipe, aux partenaires, aux employeurs, on est capable de donner vraiment un contexte intéressant puis motivant et attirant pour les nouvelles familles ici. Donc, c'est déjà super le fun.
Bravo à toute l'équipe. Je t'amène sur le dossier du compostage. Ça commence enfin. Ça fait donc bien des années qu'on entend parler. Moi, je composte déjà depuis longtemps, mais là, ça va devenir plus systémique. Donc, tout le monde est obligé de composter. On a reçu nos bacs, mais là, ça commence au mois d'octobre.
Oui, bien, le compostage, on a reçu nos bacs bruns à Dolbeau-Mistassini. On a reçu pour l'ensemble du comté Roberval, l'ensemble des villes, si ce n'est que quelques exceptions, ont déjà reçu leur bac brun avec leur petit bac. Le défi, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas dedans. Même si on a été bien documenté, on a toujours les petites...
Bon, on le voit que le recyclage, ça a pris du temps avant qu'on soit efficace.
Oui, c'est sûr. Puis, mais ce que j'apprécie aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on a vu des petites vidéos YouTube sortir avec comment faire un panier en papier journal pour éviter de salir ton petit bac. Ouais. Parce que le papier journal, lorsqu'il n'est pas en couleur, est compostable. Donc, ça permet de garder la chose nettoyée puis d'éviter qu'il y ait des petites mouches ou que ça soit désagréable. Mais je peux vous raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée le 30 septembre dernier.
Je clique « j'aime
». On n'a pas encore l'habitude du compostage à la maison. On a le petit bac, on l'utilise un petit peu. Il ne faut pas trop remplir notre bac pour pas que ce soit problématique. Mais on l'utilise quand même pour les petites affaires, pour notre compost à la maison. On commence à avoir des mouches. On le met sur notre balcon d'en avant. On est dans un quartier de Dolbeau-Mistassini. On part dans un quartier en pleine ville. Mon conjoint va travailler à 5h30 le matin. Et il se fait accueillir par une petite bête noire avec des rayures blanches qui était en train de manger dans le compost. Oh. Donc,
vous l'avez adopté?
Ah non, le 30 septembre dernier, j'ai dû passer l'enzyme dans la travers toute la maison. Donc, on a eu une super de bel accueil. Donc, le compost, oui, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, mais il faut aussi prendre en considération aussi qu'on est dans un milieu naturel. Les moufettes, on est en plein dans les saisons. Alors, les moufettes, mon conjoint qui, lui, habite dans la région depuis plus longtemps que moi, il y a déjà eu un ours noir en avant des boîtes à mal dans le secteur Mistassini.
Ah oui.
Donc, dans un secteur. Donc, il faut prendre en considération, il faut faire ça, mais ça reste quand même très intéressant. Tant qu'on le fait intelligemment, tant qu'on va chercher les informations au lieu d'en déduire quelques informations que ce soit, bien, on est capable de faire ça de manière intelligente. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que c'est quand même... on va avoir le compost et le recyclage qui va avoir aux deux semaines, mais moi, j'ai hâte parce que il y a beaucoup de gens qui se sont plaints en disant « Bien là, les poubelles vont puer » ou « Non ». Contraire.
Non, moi, mon compost est à ciel ouvert dehors, ça sent jamais. Là.
Bien, il y a ça. Puis en plus, étant donné que c'est de l'industriel, il y a des choses que tu vas dans ton compost de ton bac brun que tu vas pouvoir mettre, que tu ne mets pas dans ton compost personnel.
Clairement. Bien, moi, en fait, le compost qu'ils vont venir ramasser, c'est tout ce que je ne peux pas mettre dans mon compost personnel parce que lui, je l'utilise pour mon jardin.
Mais par exemple, la viande rouge, la viande, on ne peut pas l'utiliser dans nos composts personnels parce que la température interne, la température dans la transformation n'atteint pas un niveau assez important pour une décomposition efficace puis éviter les maladies. Mais un composteur industriel, il est tellement large que la température interne le permet. Donc, on vient d'augmenter notre efficacité, on vient d'augmenter notre qualité environnementale, mais c'est aussi, moi, ce que j'ai hâte, puis j'ai pas vu l'information, peut-être que toi, tu l'as, Pierre, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec le compost après?
Bien, si je me fie à ce qui se passe dans des villes, par exemple, comme San Francisco, qui est une des villes qui compose depuis le plus longtemps, puis sont vraiment bien organisés là-dedans, souvent, ils vendent ça à des prix dérisoires à des agriculteurs pour faire de l'engrais naturel, en fait. C'est à ça que ça sert, le compost, là.
Moi, j'ai vu qu'à Drummondville, ce qu'ils font, c'est que le prix dérisoire, oui, ils en vendent aux agriculteurs, mais il y a une journée où ils le donnent disponible aux citoyens.
Ah, bon, ça pourrait être une bonne idée.
Bien, tu sais, on a quand même beaucoup d'agriculteurs ici, mais ça fait que... on a moins à s'occuper de notre compost. Puis avec la COVID, on l'a vécu. Tout le monde s'est mis au jardinage. Ouais. Alors, c'est une très bonne façon selon moi, avoir un compost à la maison, c'est pas se casser la tête. Mais il y en a que ça peut faire peur à d'autres personnes. Donc, renseignez-vous. Moi, je vais aller me renseigner comment ça va marcher avec notre RMR, notre Régie des matières résiduelles.
Parfait, merci. C'est un bon sujet, ça. On va parler maintenant de drogues qui ressemblent à des PEDS.
Ouais. Est-ce que vous connaissez les PEDS, là, les petits bonbons qui sortent? Là?
Un truc en plastique là,
oui.
Avec une tête de ce que tu veux?
Oui. Ben, ils ont découvert de la drogue à Roberval, des enfants de 14 ans qui s'échangeaient des drogues avec ça. Ils ressemblent en tout point aux PEDS,
à ces bonbons.
À ces bonbons-là, puis les couleurs, les odeurs, tout. Il a fallu qu'ils les fassent analyser à Santé Canada pour démontrer que c'était de la drogue. Donc, c'est quand même assez important.
Achetez vos pets en paquet, déjà emballés, pour être sûr de ne pas les...
Dites à vos enfants aussi de ne pas accepter des bonbons comme ça de n'importe qui.
Moi, c'est déjà fait.
Ouais, mais je veux dire, tu sais, on se dit à 14 ans, ils ont compris.
Ouais.
ils ont compris. Mais c'est parce que si tu sais pas ce qu'il y a dedans, touche, dis pas. Puis fie-toi pas à la parole d'un ami, là.
Ouais.
Si t'as pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas ce qu'il y a dedans, touche, dis pas. C'est quand même assez important, là. On parle d'une, tu sais, à une certaine époque, l'ecstasy, les MDMA, toutes les autres drogues, on était capable de les reconnaître parce qu'il y avait soit un dessin en particulier, soit il y avait une couleur particulière, ou on avait des vendeurs. Là, ça s'est retrouvé dans une cour d'école et ça ressemble à un bonbon qui est en vente au Dollarama. C'est très, très dangereux. Imaginez si un ado arrive à la maison avec ça, puis son petit frère ou sa petite sœur décide de dire « Ah, mais moi, je vais aller voler bonbon à mon petit frère. » Non.
C'est un drôle d'Halloween.
Ça fait un très drôle d'Halloween dangereux où qu'on enverrait, parce que je pense que c'est de la fentanyl qu'il avait trouvé. Donc, c'est pas une drogue récréative douce comme on a vu être légale il y a 2 ans, là. Non, non, non. On parle de quand même une drogue dure qui peut créer quand même une dépendance. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça s'y retrouve. Tu sais, on parle d'un jeune de 14 ans qui l'avait.
Est-ce qu'il était au courant que c'était ça ou il l'avait par hasard?
L'article que j'ai lu ne donnait pas les détails, mais ça ne m'étonnerait pas. J'espère pour lui qu'il était au courant, parce que si... Je ne connais pas tous les détails de l'enquête, mais à ce que j'ai compris, c'est qu'il distribuait.
Oui. Donc, ouais. Faites attention, avertissez vos jeunes, faites attention, les bonbons. C'est bon, mais quand c'est des vrais bonbons, donc s'assurer hein, que
ça soit pas... Surtout en période COVID, allez-vous vraiment prendre des petits bonbons de même?
Pas enveloppés, là.
Pas enveloppés, c'est pas sécuritaire, mais c'est quand même assez important. Là. On parle quand même dans une période où déjà on doit se méfier, mais qu'ils se distribuent des... C'est parce que c'est pas des bonbons, c'est de la drogue cachée en bonbons. Alors, faut arrêter de dire que c'est des bonbons, c'est de la drogue cachée. Mais c'est plate parce qu'on va commencer à avoir peur de nos gâteries.
Mais c'est ça qui est triste dans tout ça, tu sais. Je donne un exemple complètement qui n'a rien à voir avec les drogues, là, mais tu sais, comme on a souvent dit aux gens, là, s'il y a un étranger qui veut te parler, parle-y pas, sauve-toi, mais tu sais... Il y a des étrangers qui veulent juste parler à des enfants. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont de bonne foi là-dedans, mais à cause d'une minorité qui font des trucs tout croche, bien là, qu'on devient un peu paranoïaque en société. Là.
Ben oui, tu sais. Puis, moi, je me dis, tu sais, à 14 ans, tu es dans un milieu secondaire, mais tu es encore très proche du primaire. C'est aberrant.
C'est aberrant, je suis d'accord. Fonds de relance 02, qu'est-ce que c'est ça?
C'est un nouveau fonds qui a été développé avec la MRC Maria Chapdelaine pour aider les entreprises à passer à travers la COVID.
Donc, et Dieu sait qu'ils vont en avoir besoin.
Ils vont en avoir de besoin. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour remplir le formulaire afin de bénéficier d'une aide financière. Puis l'aide financière va leur permettre de payer tout ce qui est en lien avec la COVID. Un petit peu les employés, mais il faut que tu ailles la raison du nettoyage. Toute la réorganisation pour combler.
Les plexiglas, les masques et le curet.
Le gel hydroalcoolique. Si tu as besoin d'avoir plus de staff sur le plancher pour nettoyer ou pour garder 2 mètres ou pour que tout le monde, par exemple, dans une entreprise quelconque de service à la clientèle où tu as beaucoup de monde puis tu te dis, OK, je vais un client à la fois, mais les autres vont pouvoir magasiner. Non. Besoin de plus de monde pour ça, bien, ça va aider là-dessus. Donc, c'est quand même une bonne idée. C'est un fonds qui est rempli, donc qui vient de Rio Tinto Alcan par les barrages. Donc, il y avait déjà des fonds pour la ruralité qui ont été faits par Résolu et par Rio Tinto. Mais là, c'est un fonds qui va être expressément dédié. On parle quand même de près $1 million, donc 970 000 ou quelque chose. Je me souviens plus du montant exact. Je suis désolée, chers téléspectateurs. Mais ça reste quand même un fonds quand même très intéressant pour nous aider à... Déjà que l'achat et le déplacement, surtout si on vient en zone rouge ou on devient juste en zone orange aussi, même si on devient comme ça, ben ça va être encore plus difficile pour eux. Donc, en évitant déjà la surcharge financière de ces accommodements-là, le temps que les choses se replacent, bien, tu sais, les consommateurs n'ont pas plus d'argent à mettre dans leur poche. En plus que la PCU a terminé, que là, c'est la PCRE. Donc, Ça va vraiment les aider au moins.
C'est déjà rien de simple là, pour ces gens-là, donc ils peuvent avoir un peu d'aide.
Bien, ça va être un peu d'aide qui va être une aide assez dirigée, puis ça va permettre au moins de pouvoir se concentrer sur l'innovation et non sur comment je paye mon gel hydroalcoolique.
Comment je peux survivre.
Le but, c'est pas. Ce que j'apprécie du programme, c'est le but, c'est pas aide-moi pendant la crise. C'est allège-moi de la situation de la crise pour que j'innove pour survivre. Parce que l'argent que tu mets sur les choses pour au jour le jour, c'est pas sur de l'innovation, sur l'adaptation. Donc ça, c'est moi ce que j'aime bien, j'aime beaucoup ce principe-là dans ce fonds-là, parce que ça va. Il y a des gens, par exemple, je vais donner l'exemple de la PCU. L'individu se disait, c'est plus avantageux pour moi de garder la PCU que d'aller travailler, même si c'était un milieu qui n'était pas dangereux.
Ouais.
Donc ça. C'est ce qui est arrivé, puis ça a augmenté la rareté de main-d'œuvre. Fallait s'y attendre. Mais pour les entreprises qui sont déjà souvent, même avant la crise, qui étaient à la tête, juste la tête hors de l'eau, bien, se dire ah, bien, je vais utiliser cet argent-là pour relaxer un petit peu, puis je vais recommencer le même modèle après la crise.
Ouais. Peut aider.
Je veux dire, si c'est pour payer ce que la crise coûte plus cher, tant mieux. C'est ça l'objectif du fonds. Mais si ça dépense plus que ça, puis ça, certaines entreprises, mais ça, j'ai pas l'impression. Ceux que je connais dans la région ne feront pas ça, mais c'est pour ça que j'aime bien comment ils ont structuré le fonds. C'est que les personnes, les entrepreneurs qui vont utiliser ce fonds-là pourront pas dire « Ah, ben ça paye mes pertes, ça paye mes... » Non. Commence tout de suite à penser, parce que pendant la COVID et après la COVID, le milieu va avoir changé du tout au tout. Innove maintenant. Profite de ce répit-là. Profite de ce soutien-là.
Parce qu'on n'a jamais le temps de monter ces projets-là. Souvent, là, peut-être que le temps est là et qu'on peut plus axer justement sur l'innovation et puis sur sortir de son paradigme.
Mais sans non plus rentrer en concurrence avec des entreprises qui n'en ont pas besoin de ce fonds-là, parce que c'est surtout pour les petites et moyennes entreprises.
Ouais.
Ça permet juste de dire, OK, je suis pas dans le au jour le jour. Là. Ce bout-là qui est rough, qui est dur à trouver, qui est dur à faire, je sais que ça va être fait puis ça me stresse plus. Maintenant, il faut que je pense à après la crise. C'est déjà bon. Moi, je trouve que c'est une bonne
crise,
idée.
Après la crise, on a tellement hâte.
Ah! La grande blague qu'on dit dans ma famille, c'est... En 2025, on va se dire, hey, dans mon temps, on vivait dangereusement, on soufflait ses chandelles, ses gâteaux, avant de les distribuer à tout le monde.
c'est
quand même ça, tu sais. Je vois des membres de ma famille qui regardent la télé, ils font comme, ils n'ont pas gardé le 2 mètres, ils sont dans une série télévisée. Là, maintenant, ça nous choque.
Ouais.
Ça nous choque de voir des gens qui sont proches et qui ne connaissent pas parce que dans la série télé, ça a été filmé avant ou c'est vu coup de poste. Donc, c'est quand même, c'est rendu dans nos mœurs.
Ouais. On va voir ce que ça va donner après.
Oui.
Retour du Ciné-Club, pardon.
Oui, bien le retour du Ciné-Club, ça aussi, ça m'a impressionné, ça m'a surpris. J'ai vu l'article le 1er septembre dernier où, alors qu'on annonce partout que c'est la fin des milieux culturels ou que tout se referme, bien l'équipe, l'organisme du Ciné-Club de Dolbeau-Mistassini recommence. Donc, c'est des séries, des films qui ne sont pas des blockbusters ou autres qui vont permettre d'être diffusés.
Du cinéma d'auteur. Est-ce qu'il y a des contraintes liées au COVID pour assister au Ciné-Club?
Ça va être la même chose que n'importe quel film, à ce que j'ai compris. Donc, c'est une rangée de libre entre chaque rangée d'utilisés, 3 bancs de séparation
entre chaque
famille, entre chaque personne d'une même résidence lors de la diffusion, donc moins de monde. Mais ce que je sais déjà, c'est au Ciné-Club, la salle n'est pas toujours pleine. Donc, ça va être quand même assez bien adapté. Donc moi, longue vie, j'espère que toute la saison va très bien se passer, parce que c'est une belle activité culturelle qui va être accessible dans la période qui est présentement, parce que tout le monde, on ne se le cachera pas, tout le monde a peur de la deuxième vague. Tout le monde a peur d'un reconfinement. Déjà que la Ville de Montréal le revit, la Ville de Québec est sur le bord, tout est en hausse. D'un coup, on était vert, puis là, dès que les systèmes de couleurs durent une semaine et quelques jours après, on est tous tombés en jaune, il n'y a plus de zone verte.
Trois zones rouges, ça va mal.
Oui, puis tu sais, notre voisin le plus proche, la Mauricie, est déjà en zone orange.
Ben, Québec en zone rouge.
La ville de Latuc, qui est quand même notre ville qui est à la périphérie sur la 155, ben ils ont eu une augmentation de 4 cas en une journée. Donc, ça va quand même assez vite. Donc, on sait que, tu sais, on était un petit peu rassurés en se disant que la route Mauricie n'avait pas été tant touchée, même qu'il y avait eu zéro cas lors de la première vague, mais là, ça a l'air à se rattraper. Donc, ça se rapproche de nous, le haut du lac, là.
Ouais. Parlant de COVID, premier cas de COVID au cégep de Saint-Félicien.
Oui, dans le fond, on a entendu beaucoup parler des cas de COVID.
Polyvalente d'Arvida, cégep de Jonquière.
La polyvalente Les 80 à Saint-Félicien. Mais là, c'est le premier cas ce matin, le 1er octobre qui a été détecté. Donc, on parle quand même. Il y a un premier cas. Mais moi, je me dis, est-ce que le piratage a tombé au bon moment?
Ben non, parce que clairement, ce cas-là, c'est quelqu'un qui, durant la semaine où ils ont dû arrêter les activités à cause du piratage, est parti à l'extérieur de la région et est revenu avec le COVID.
Oui, mais c'est ça, c'est un étudiant, est-ce qu'il est retourné en cours depuis?
Non, parce qu'il n'y a pas de cours.
Mais
sauf que, ouais, je comprends ce que tu veux dire, sauf que s'il y avait eu des cours, il ne serait pas parti de la région pour aller voir des gens, parce que là, il y avait comme une semaine où il n'y avait pas de cours, donc il est allé voir des gens qu'il connaissait à l'extérieur de la région, il a attrapé le COVID. Bon, c'est vrai qu'au retour, ça fait bien parce qu'il n'a pas pu contaminer personne à part probablement son colocataire, qui est aussi en quarantaine.
Oui, automatiquement.
Donc, ouais, ça tombe bien et mal en même temps.
Ah, c'est ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a des.
Je pense que si on parlait aux dirigeants du cégep de Jonquière, je pense pas qu'ils nous diraient que le piratage informatique est tombé au bon moment.
Non,
parce
pas.
Parce que déjà
non,
qu'ils ont géré
non, pas
une institution avec le COVID, là, je veux dire, l'attaque informelle, la cyberattaque, c'est quelque chose.
C'est quand même un ransomware. La semaine dernière, vous en avez parlé un petit peu, mais avez-vous expliqué les détails? Qu'est-ce qu'un ransomware?
C'est qu'on demande, si tu veux réavoir tes données, ben tu dois payer une rançon.
Mais c'est ça. Donc, c'est ce que le cégep de Saint-Félicien vit présentement. C'est quand même une attaque d'envergure parce que ceux qu'on connaît le plus souvent à travers le Canada, c'est des individus qui sont allés, par exemple, sur le dark web ou dans des lieux qui sont dangereux. Mais là, au cégep de Saint-Félicien, ils ont quand même une très bonne structure. Puis moi, je sais qu'il y a quelques semaines, au début de la saison, au début de septembre, ils étaient à la recherche de quelqu'un pour s'occuper des technologies de l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose de très complexe, l'informatique.
Mais c'est pas la première fois dans la région que des établissements scolaires sont visés par des pirates informatiques. Là.
Non, mais un ransomware, c'est quand même assez envahissant.
C'est pas la même chose qu'un virus. Je veux dire, ma conjointe enseigne au cégep de Saint-Félicien, puis là, elle n'a plus accès à tes listes de classe, à pouvoir communiquer, à ton courriel. Je veux dire, ça complique beaucoup parce qu'on est habitué. Et l'enseignement aujourd'hui, on allait de plus en plus vers ça. On disait, bon, ben, on enseigne en ligne, on va de plus en plus vers ça. Là, à Go, on dit non, à Go, faut que tu retournes en classe avec une crêpe et un tableau. Je comprends.
Alors que toutes tes notes, tout ton programme, tout est là.
Tous tes PowerPoint, tout ton matériel qui a été fait, là, tu n'as plus accès à tout ça, ça devient compliqué.
Non, c'est ça. Mais je me dis, pour l'étudiant en question, ben ça lui donne quand même... Tu sais, il n'est pas dans une situation où il aurait pu le transmettre à d'autres trop vite.
Ouais.
Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il faut se le dire d'une certaine façon, contrairement à nos polyvalentes qui, eux, ont pas vécu ça ou que les jeunes, avant d'avoir leur diagnostic... Ben, se sont retrouvés quand même auprès de la communauté. Donc, au lieu d'avoir une à deux ou même quatre personnes en colocation qui sont en quarantaine, ben là, dans les polyvalentes, c'est des classes au complet.
Ouais.
Donc, on est déjà... On est chanceux dans la malchance.
On est chanceux dans la malchance. C'est l'heure pour nous de prendre une pause. On va revenir tout de suite après la pause. Donc, profitez de ce temps pour aller vous faire un bon café ou écouter les publicités. On revient immédiatement.
Le sport, c'est une grande partie de ma vie. Puis il n'y a rien comme de le pratiquer entre amis pour essayer de se dépasser. Mais en ce moment, il faut continuer de faire attention pour nous, pour nos amis puis pour notre famille. C'est pour ça que quand on s'entraîne ou quand on veut juste chiller, il faut suivre les mesures en place. Il faut éviter les rassemblements, limiter la taille des groupes puis se tenir à 2 mètres. Je le sais que c'est pas facile, mais on est capable. Parce que plus on va se protéger, plus vite on va passer à travers.
Au début, je me suis dit que ça pouvait pas être ça, que c'était juste mes allergies. Je toussais un petit peu, mais j'avais pas de fièvre. Sauf que même si je m'entraîne, j'étais épuisée juste à monter les marches. À partir de ce moment-là, j'étais toujours fatiguée. J'ai commencé à avoir les lèvres bleues puis à manquer d'air. Le jour de ma fête, j'ai pas eu le choix, j'ai dû appeler l'ambulance. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux.
de retour de la pause et c'est pas fini parce qu'on a des sujets très chauds. Dans le prochain, on va parler de Joyce et Echaquan.
Echaquan,
qui est décédée à l'hôpital de Joliette, victime de racisme et de mauvais traitements. Elle s'est filmée. C'est triste que ça prenne quelqu'un qui se filme là, pour avoir accès à ces informations-là. Je pense que tout le Québec est un peu choqué. Les communautés autochtones, je pense que c'est inacceptable. Puis je ne sais pas quoi faire. Ceux qui doutent qu'il y ait du racisme systémique au Québec, je pense que ça leur prendra un bon cours d'histoire. Là. Allez d'ailleurs revoir là, ce que Serge Bouchard avait fait lors de la commission sur les services publics et les relations avec les Autochtones il y a quelques années, juste pour essayer de comprendre la question puis aller au-delà des préjugés que plusieurs personnes ont encore, malheureusement.
Je suis en beau. Mettez le mot d'église hors contexte que vous voulez.
OK? Baptême.
Je suis hors de moi. J'ai grandi, j'ai été élevée dans une municipalité où la relation avec les Atikameks est très intime. Elle n'a pas été toujours facile, mais très intime. J'ai des amis, donc dont Mme Echaquan est la cousine. La relation avec les Atikameks, Manawan, Wemontashi, Obedjoan, je les connais. Le racisme systémique, on le voit, on l'a vu à Val-d'Or avec des policiers. Là, on le voit dans le système de santé. On l'a vu dans l'histoire avec les pensionnats. On l'a vu avec la loi sur les Indiens. On la voit avec le concept des réserves. Maintenant qu'on appelle des communautés autochtones, ça n'a pas changé leur statut politique. On a juste changé pour un mot qui est plus doux. Là, on pourrait revenir sur l'histoire à quel point au niveau du milieu hospitalier, structurellement parlant, je ne parle même pas de l'infirmière qui déjà à la base est indécente dans son comportement. Je ne parle pas de l'ensemble de l'équipe, parce que Joliette est à côté. C'est l'hôpital où les gens de Manawan vont, où les citoyens de Manawan, parce que ce n'est pas des Indiens, c'est des citoyens. Okay? Les citoyens de Manawan ont besoin de services à l'hôpital de Joliette. Et avez-vous entendu à quel point cette infirmière, qui semble avoir une infirmière d'expérience, qui était là depuis longtemps dans un service d'urgence où les gens sont sensibles, sont dans une situation où ils sont en crise, elle réagit. Ah ben bon, je comprends qu'elle peut avoir son 16 heures de travail.
Ça ne sera jamais une excuse.
Ça ne sera jamais une excuse pour un comportement aussi violent, dégradant, avec un grave manque d'éthique. Ça me met en beau fusil et j'essaie de trouver des mots qui peuvent passer à la caméra parce que vous...
Non, mettez-vous dans la peau des gens. Tu sais, quand t'es malade, tu t'en vas à l'hôpital parce que là, tu te sens en confiance pour être traité. Imagine quand t'as pas ce rapport de confiance-là avec les services des soins de santé. Comment tu fais? Il faut que tu ailles quand t'es vraiment dans l'urgence. Là.
Les infirmières, la dame, elle peut se plaindre qu'en Atikamek parce qu'elle est droguée. Et puis, il est écrit dans son dossier qu'elle est allergique à la morphine. Mais, selon les premiers éléments de l'enquête, l'infirmière en question, une infirmière, a dit « Bon, elle doit se plaindre pour rien, je vais y en mettre un peu plus. » C'est ça qu'elle dit en Atikamek, « J'ai trop de médicaments, j'ai été droguée. » C'est ça qu'elle dit. « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin... » Parce qu'elle est arrivée là pour des maux d'estomac. Elle a 37 ans. Elle a 37 ans et... Tu sais... Je connais des membres de sa famille qui ont vu le vidéo en direct. C'est enrageant parce que le racisme systémique, là on a du racisme clair, on a du racisme violent. Puis on parle d'un racisme qui a été fait par des gens dont leur travail, c'est de s'occuper de l'humain. Donc de cette façon-là, ces personnes-là, on dit « cette personne-là est une humaine, peut-être, mais de seconde zone ». On a un système de santé malade, ça on est d'accord, mais pas au point où on dit « c'est mieux une mort, ça ». Pas au point où une négligence
volontaire
d'une perception sociale, d'une communauté, une femme qui a 7 enfants, 37 ans, 7 enfants, pour un problème d'estomac. Pas un problème de cœur où on a fait une erreur sur la médication. Non, un estomac.
Puis elle est décédée, là.
Elle est décédée en direct sur nos réseaux sociaux en demandant de l'aide dans une civière, dans un hôpital québécois. Pensez-y, là, deux secondes. Pensez-y deux secondes. Vous êtes dans un hôpital au Québec. Premièrement, on ne parle pas votre langue. Mais correct, l'Atikamekw est particulièrement difficile à comprendre. Mais quand une personne crie de cette façon-là, c'est jamais pour rien. C'est jamais
pour
rien.
Non, c'est pas pour le plaisir d'être désagréable. Là. C'est comme, je sais pas à quoi les gens veulent se penser. Et depuis ce temps-là, on voit plusieurs témoignages de gens qui disent avoir subi du racisme à cet hôpital-là. Moi, je ne crois pas la direction de l'hôpital quand elle dit qu'elle n'était pas au courant. C'est pas la première fois. Puis là, on est en train de documenter les cas. J'ai hâte de voir l'enquête du coroner parce que...
Puis moi, je veux voir aussi comparaison avec d'autres institutions hospitalières aussi. Parce que là, on parle de Joliette. On parle de qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je ne sais pas comment ça se passe à l'hôpital de Latuc. Je ne travaille pas dedans. Je ne travaille pas dedans. Je ne suis pas assez en contact avec des personnes autochtones qui sont dans le milieu. J'aimerais ça qu'on parle à des gens des centres d'amitié autochtones, parce qu'on en a un peu partout au Québec, je vous le rappelle, des gens qui sont directement en communication ou qui sont eux-mêmes autochtones et qui peuvent parler de la situation. Je pense qu'on leur donne pas assez de place, on leur donne pas assez de tribune. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont été appelées dans les médias qui viennent des communautés autochtones pour parler de la situation, ou des professionnels de la communauté autochtone. Il y a Serge Bouchard, oui, mais dans les médias, moi, j'aimerais ça, voir la directrice du Centre autochtone de Joliette parler, une intervenante. J'aimerais ça qu'on... tu sais, on a donné la parole au conjoint. Oui, tu sais, cette personne-là est arrivée à l'hôpital. Là. Elle n'était pas toute seule. Pourquoi, lorsqu'elle crie, on ne demande pas à un membre de sa famille, « Tu parles à Tikamekw, peux-tu venir nous traduire, s'il te plaît? » Il y a quelque chose, elle crie, « Ça va pas bien, on ne comprend pas, viens nous aider. » Non! Non. Ah, on est trop dans le rush. On se permet de faire des termes racistes que je ne veux pas répéter ici. Je suis On a la chance, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'avoir une communauté qui est ouverte, qui est accessible, qui est Mastoyach. C'est une communauté Innu. C'est pas la même culture, mais ça reste qu'ils vivent les mêmes défis en matière de discrimination.
Oui, parce que malheureusement, on les a tous mis un peu dans le même panier. Je veux dire, personne ne connaît réellement le nom des communautés, leur territoire, etc. On les appelle les Autochtones. Mais je veux dire, c'est les Atikamekw, c'est des Innus, c'est des Mohawks. C'est, écoute, il y en a 12 communautés différentes, là,
15.
Juste 15 au Québec. Donc, tu sais, je pense que c'est important d'apprendre notre histoire et d'apprendre... Pas l'histoire que la religion catholique nous enseignait dans nos écoles, parce qu'on ne parlait pas des Autochtones. Au contraire, on a voulu s'éloigner. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, avant la conquête anglaise, la communauté canadienne-française était très proche des communautés autochtones. Mm-hmm. Et le grand rêve de Champlain, c'était d'ailleurs de faire une société avec les Autochtones. Et puis, ces Autochtones-là ont participé de manière considérable à l'économie canadienne avec la traite des fourrures, à une autre époque. Et puis,
même dans le système médical, au début, parce que le scorbut, toutes les maladies qui viennent de notre pays, de notre territoire, bien, eux, ils l'ont tellement vécu ici qu'ils ont aidé les premiers colons français à passer à travers des hivers rudes. Ils ont aidé... Dans les manières de vivre, dans les livres d'histoire qu'on j'ai eu à mon époque, et j'espère que ça l'a changé ou que ça va changer dans les prochaines années.
Mais si une personne... C'est en train de changer. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça changera jamais parce qu'ils sont plus à l'école. Tu sais, d'apprendre à comprendre la réalité autochtone et que tous les préjugés que les gens peuvent avoir, des problèmes sociaux, etc., c'est nous qui les avons créés avec les pensionnats, avec leur vol de leur terre, avec... Je veux dire, je pense que personne n'aura accepté ça et c'est ce qu'on a fait subir à ces communautés. Là.
Moi, je trouve que l'équipe de Culture Innu, qui sont les gestionnaires du musée amérindien de Mastoyach, ils font un très bon travail de sensibilisation là-dessus. Puis c'est pas un travail de discrimination dans le sens où on fait comme « Ah, on est victime de racisme ». Non, c'est « Venez nous rencontrer, venez voir nos méthodes ».
Venez comprendre.
Venez comprendre, venez voir la vie comme nous, on la voit. Venez voir, et moi, je... Dites-moi pas que vous n'avez pas les moyens d'y aller, là. Dites-moi pas, là. C'est en bas de 20$. Puis les premiers dimanches de chaque mois, c'est gratis. Mm. Allez-y. Allez parler avec la communauté. Allez échanger. On a cette chance-là d'avoir une communauté qui est à proximité. C'est, je ne dis pas que les autres sont fermés, mais ils ne sont pas faciles d'accès par leur emplacement, ou de, surtout en période COVID.
On est chanceux, quelque part, d'avoir, oui, une communauté autochtone. C'est tellement riche culturellement, tu sais.
Oui, puis actifs, puis fiers aussi. Là. Ceux qui habitent ici, là, qui ne sont jamais allés à Amasseuillage, là. Je fais comme, vous manquez quelque chose. C'est beau, c'est bien entretenu. Tu sais, moi, je vois des villes de nos MRC qui sont moins bien entretenues que Masseuillage. Hein.
Puis Masseuillage est chanceux, puisqu'il y a encore plein de communautés qui n'ont même pas l'eau courante. Au Québec, là.
Oui.
Qui n'ont pas l'électricité au Québec. Là, on n'est pas. Puis, écoute, en tout cas, moi.
Qui ont accès à un. Qui ont accès, comme on a dit pour Manawan, qui ont accès à un hôpital à moins de 30 minutes. Tu sais, Manawan puis Wamantashi, là, c'est une heure et demie avant de te rendre à l'hôpital en cas d'urgence. Dans des chemins de terre. Manawan, j'y ai pas été encore. Donc, je peux pas dire exactement c'est quelle distance de l'hôpital de Joliette. Mon erreur, je vais aller chercher l'information parce que je trouve que c'est une culture. Moi, j'aime côtoyer les personnes d'origine autochtone, mais j'aime pas ça dire ça de même parce que c'est des personnes point. Mais j'aime la culture autochtone, j'aime m'imprégner puis discuter avec eux. Mais on ne connaît pas leur réalité, puis on ne connaît pas la réalité historique. J'ai bien aimé une jeune femme BDiste qui a fait une BD à propos du sentiment autochtone. Je vais essayer de vous la décrire parce que c'est le visuel qui est le plus intéressant. C'est que vous avez une maison avec plein d'étages, des belles pièces, puis bien entretenues, puis vous avez de l'espace pour chasser et autres. Et là, il y a des étrangers qui arrivent. Ils disent « Eh bien, bienvenue, venez, rentrez, on va vous préparer un repas, vous allez avoir votre chambre, vous allez être confortable. » Parfait. Les années avancent, les jours avancent, puis là... Finalement, ils prennent leur herbe en cuisine. Hein? Finalement, ils se laissent traîner dans le salon. Ils se laissent traîner dans l'autre chambre. La maison est belle, là, mais on est trop, là. Pourriez-vous aller au sous-sol? C'est quand même chez nous, là. T'sais, on peut vivre ensemble, mais c'est chez nous. Je vais pas vivre dans le sous-sol. T'sais, non. Ah ben là, vous êtes ingrat. OK, on va s'adapter, tu sais. Si dans votre culture, c'est ça, on va s'adapter, tu sais. On va trouver un terrain d'entente plus tard. Ah ben là, on prend trop de place, là. Finalement, prenez la chaîne. On a besoin du sol. Non. On veut quand même avoir accès à notre propre maison. Ah ben là, vous êtes ingrat. Vous n'êtes pas capable de respecter notre territoire. C'est ça qu'on dit aux Autochtones.
Clairement.
C'est clairement ça qu'on dit aux Autochtones. Puis après, on se dit, ben pourquoi vous chiolez? Vous avez tout. Non. Non. Ils ont un système. Un système que j'en ris tellement c'est ridicule. De faux avantages.
Oui, puis le gouvernement fédéral a tellement fait de promesses depuis 150 ans qui n'ont jamais tenu.
Attends un peu! Il y a le gouvernement fédéral, mais le gouvernement provincial, quand il y a un problème qui est dans ses circonscriptions, ben non, c'est du fédéral, ben non, c'est du provincial, ben non, c'est du fédéral, non, c'est qui la responsabilité? C'est à qui la responsabilité? C'est qui s'occupe, tu sais... De citoyens.
Exactement, tant qu'on ne les considérera pas comme des citoyens.
De citoyens, c'est des citoyens qui ont une culture différente, mais de citoyens. Et il y a quelque chose. Moi, j'ai la chance de travailler avec différentes cultures, avec différentes personnes qui viennent de pays avec des cultures, des origines différentes. C'est très gratifiant, on a beaucoup. Mais je vous laisse le reste du mot. Qu'on ne connaît pas une culture riche qu'on a ici. Qu'elle n'est pas aussi tissée, serrée dans notre communauté. Parce qu'on dit, ah, ben ouais, on est des Québécois de souche. Excusez, mais la terre est autochtone.
Oui, puis de toute façon, il faut voir le documentaire de Québécoisie où on démontre très clairement par des tests d'ADN là, que le Québécois de souche a un Québécois de souche, et de 50 à 70 % des Québécois de souche ont des gènes autochtones. Donc, le métissage se fait depuis toujours. La culture, c'est un objet qui est toujours en mouvement. C'est pas figé, une culture. Ça l'avance et ça l'intègre des cultures de partout. Je veux dire, la belle ceinture fléchée du Québécois de souche est d'origine autochtone.
Ben oui!
Je veux dire, à un moment donné, là...
La culture du canot!
Ouais,
la culture du canot, c'est Atikamekw! On revient à Joyce.
Ouais.
La culture Atikamekw, c'est les paniers, c'est le tressage, l'utilisation du bouleau. Je suis à la fois complètement en colère et sans voix de me dire que, tu sais, pendant longtemps dans les milieux professionnels, on se disait que c'est les gens qui n'avaient pas d'éducation qui étaient racistes. Excusez, mais une infirmière, ça a minimum une technique 3 ans au cégep. Ça peut aller jusqu'à 5 ans à l'université. Puis ça a des comportements aussi dégradants en face à une autre culture. C'est pas une question de connaissance ou de compétence. C'est pas une question de elle savait pas ou elle a été élevée dans un mauvais milieu. Non.
Et moi, je veux rappeler aux gens que quand on parle de racisme systémique, on dit pas t'es raciste.
Non.
C'est que culturellement, on a appris à l'école avec les comportements, en regardant nos aînés, le rapport avec les Autochtones depuis toujours, qui était très politisé et qu'on a mis en réserve, on est arrivé avec tous ces préjugés-là qui sont inculqués. Le racisme, il n'est pas inné, il est acquis. On l'apprend à être raciste et on s'en aperçoit même pas. C'est comme la culture du viol où on dit pas que tu es un violeur, on dit que culturellement, on a banalisé beaucoup de comportements et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Puis ce qui est triste, c'est que j'ai l'impression que ben là, on fait un gros drame avec ça, puis au bout du compte, il ne changera pas grand-chose parce que c'est pas la première fois qu'on a un drame de cette envergure-là. Puis bon, on a tout le temps l'impression que...
Mais là, c'est la première fois que c'est une personne autochtone qui parle en son nom.
Ouais.
Parce qu'avant, c'était un journaliste canadien ou québécois qui parlait de la situation de... Là, c'est la première fois...
Qui était très colonialiste encore.
C'est très colonialiste, puis on fait comme, ah, ben tu sais, ils se débrouilleront eux-mêmes, tu sais. Non. Non, non. Là, c'est la communauté autochtone qui s'est faite donner un outil fort pour démontrer, sans la vision du Québécois, sans la vision du Québécois du blanc, sans la vision du Canadien qui n'est pas sensible à ça, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu n'as pas le témoignage donné par Isabelle de Radio-Canada qui explique qu'il y a des enfants qui se sont fait adopter, parce que ça, il y a tellement d'histoires à propos de
des pensionnats, des orphelinats,
des enfants qui sont morts à l'hôpital, les parents ne l'ont jamais su, ou encore des enfants qui, à l'hôpital, se sont fait adopter par des familles blanches sans que la famille le sache, ou encore la famille pense que les enfants sont morts à l'hôpital. Il y a des histoires d'horreur partout.
Non, puis il y a une question des pensionnats. Des fois, on fait « il y a des problèmes sociaux chez les Autochtones ». Effectivement, mais pourquoi, pendant des générations, on a enlevé les enfants de leur famille, ils voyaient leurs parents 2 semaines par année, des fois pas.
Puis ils n'avaient pas le droit de parler leur langue.
Pas le droit de parler leur langue, pas le droit de pratiquer la religion. Ils étaient battus, souvent violés. Et puis après ça, on les retourne à 18 ans dans la communauté en disant « Sois un adulte responsable! » Hey, c'est sûr que t'es fucké, là. Je l'aurais été aussi, là.
Ben oui, parce que t'es plus dans ta culture, t'es plus dans ton milieu.
Après ça, t'as des enfants, puis il faut que t'apprennes à les aimer puis à les élever quand toi personne n'a fait ça pour toi. C'est très compliqué, t'as pas les outils, ça crée des problèmes sociaux. Puis après ça, ben on fait « Ah, ben on met des problèmes, eux autres. » On est responsable de ça collectivement.
Ah, oh, c'est...
Je t'arrête là-dessus parce que je pense qu'on va, on est d'accord.
Non, mais on est d'accord, mais je pense qu'il faut...
S'informer.
Il y a quelque chose. Arrêtons d'en parler. Agissons. OK? Je vais vous donner juste, avant de partir, un dernier exemple de racisme systémique que nous vivons présentement et qu'on fait vivre aussi aux communautés autochtones proches de nous. C'est un racisme qu'on appelle le « Indian Time », que j'appelle le « Indian Time ». Dans notre société américaine, on a des heures, des horaires. On a. Puis quand tu travailles avec des communautés autochtones, ben, faut pas que tu te fies à ça. Ils arrivent quand ils arrivent, ils partent quand ils repartent, puis ils prennent le temps qu'il faut, puis c'est correct. Ben, dans notre système de travail, on n'est pas adapté à ça, parce qu'il faut que tu te donnes des résultats dans un temps donné. Mm. Ben, c'est un racisme systémique.
On leur impose
une... On leur impose une structure, puis on les dénigre, on leur dit qu'ils sont pas bons parce qu'ils respectent pas notre structure. Alors que moi, j'ai bien aimé une coucoume qui m'avait dit ça. Une coucoume, c'est une grand-maman en différentes langues, à Atikamekw, puis nous, c'est coucoume. Elle a dit, vous, vous avez l'heure, nous, on a le temps. On n'est pas placé pour juger leur comportement, leur culture. Ils ont vécu avec les Arabes, puis ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire au moment qu'il fallait le faire. Ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur culture. Mais ça, c'est un racisme systémique qu'on peut voir dans tout mon milieu de travail, où on fait comme, ah, ils sont pas fiables. Ils ont une manière de penser différente. Au lieu de dire...
C'est très colonialiste. Bien, même les conseils de banque, on les a obligés de créer cette structure politique-là qui est à l'image de nos structures politiques quand ils ne fonctionnent pas pendant tout. On revient à la crise avec les chefs héréditaires, etc. Il y en a plein d'exemples. Allez vous informer. Allez écouter le témoignage de Serge Bouchard à la Commission sur les services publics et les Autochtones. Écoutez les documentaires comme Québécoisie, comme Indian Time qui étaient produits dans la région, comme Le Peuple invisible de Richard Desjardins. Il y a beaucoup d'informations qu'on est capable d'aller voir pour réaliser, en fait, que le problème, il n'est pas aussi simple que vos préjugés. Fait que, je pense
allez dans la section autochtone de Radio-Canada. Écoutez un petit peu plus APTN, qui est quand même... Là, on parle des Autochtones, des Premières Nations au Québec, mais APTN, c'est les Premières Nations à travers le Canada. Donc, ça peut être très intéressant. Renseignez-vous, baignez dedans. Allez au musée Inuit. Allez au musée amérindien de Mastoyach. Allez rencontrer les gens. Allez... Prenez le temps de parler. Prenez le temps. Non, est dans un milieu...
Non, je t'arrête. Prenez pas le temps de parler. Prenez le temps d'écouter.
Oui. Tout à fait raison.
Allez, on a le temps pour un dernier sujet. Pour changer le beat un peu, on va parler de quelque chose de plus joyeux. On va parler du débat entre Trump et Biden. Ah non, mais les élections américaines...
Ça en est ridicule!
Non, mais les élections américaines arrivent... À grands pas, c'est un des pays les plus, un pays très important et notre voisin le plus important. Et là, on voit cette guéguerre de fond de ruelle en deux bonhommes de 70 ans.
Deux vieux matous.
C'est désolant. Mon Dieu Seigneur.
Non, c'était incroyable.
Oh! En fait, le grand perdant dans ce débat-là, c'est la démocratie, moi, te le dire, là, parce qu'on a parlé d'aucun enjeu, on ne fait que s'attaquer et s'insulter. C'est exactement pourquoi les débats ne servent à rien en ce moment en société, parce qu'on n'est pas capable de débattre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de s'écouter.
Ah non, mais ça, il y a toujours ceux qui sont anglophones, qui connaissent l'anglais, le « shut the hell up ». Ah!
Ça t'a fait plaisir?
Ah, j'ai fait « yes ».
Mais tu sais que Hillary Clinton est revenue là-dessus dans un tweet cette semaine en disant « Si moi, j'avais fait ça lors du débat il y a 4 ans, je me serais fait... »
Arracher la tête.
Ouais. Là, mais comme ces deux vieux bonhommes, là, on peut se le permettre. Mais ce qui est triste, c'est qu'au bout du compte, ça ne change absolument rien, ces débats-là. Ça devient un cirque.
Oui.
Il n'y a rien d'intéressant. À part la peur, en fait, parce que c'est ça qu'on fait, là, quand on dit « stand back and wait », là.
Ah non, nous autres, là, on a... J'ai plusieurs amis qui l'ont écouté. Moi, j'ai pas pu, donc je l'ai écouté en rediffusion. Puis en fait, comme on a plus peur après. Pas à cause des arguments, parce qu'on s'est dit que ce soit un ou l'autre, ça va être la...
Ça l'est déjà. Okay.
Non, mais déjà que...
Ils sont dans une grande crise de leur histoire. Coronavirus, services, immigration, Black Lives Matter. Il y a tellement de problèmes et on dirait qu'il y a de plans pour rien parce que tout ce qu'on veut, c'est une espèce de pouvoir patriarcal et impérialiste qui date d'une autre époque.
Ah, il y a ça. Il y a ça, mais tu sais, cette élection-là, c'est même pas un pour ou contre un système, c'est pour ou contre Trump.
Hein? Non, mais ça, le narcissique va loin, là, parce que là, on est rendu à personnaliser cet
enjeu-là. Le débat, puis on n'a pas de projet de vie, là. C'est comme, moi, j'ai regardé un petit peu le concept de la campagne de Trump, puis c'est, il faut Trump pour défaire ce que Trump a fait. C'est carrément ça, la campagne. La campagne, c'est, hey, on va aider on va aider la relation économique. Ben ouais, mais Trump est en train de scraper toutes les relations internationales. On va aider les gens plus démunis. Ouais, mais le président, il fait de l'argent, il paye pas d'impôts, puis il scrape tout ce qui est social.
on va aider l'économie, on va avoir plus de travailleurs. Ouais, mais tu stoppes l'immigration. Tu sais, nos entreprises qu'on a ici, on va parler encore plus local. Là. Regardez Résolu. Regardez les cours des shops de chez Résolu. Avez-vous vu que... Puis les gars, là, les gars et les filles qui travaillent chez Résolu, ils travaillent en tas présentement. Ils travaillent énormément. Pourquoi? Puis ils bûchent, là, puis ils font du bois. Puis ils font... Alors que dans nos quincailleries, on a une pénurie, là. On a une pénurie, mais les cours de Résolu, puis les cours... eux autres, ils en remplissent, là. Ils la remplissent, là. C'est pas qu'on manque, c'est plutôt qu'on profite de la situation parce que Résolu, il ne faut pas oublier que c'est le siège social est américain. On accumule parce que si Trump revient au pouvoir, les taxes aux frontières, tout ça va tellement augmenter que là, ils vont faire comme « Ah! Nos prix sont au maximum, on va le vendre. » L'aluminium, présentement, qu'est-ce qui se passe avec l'aluminium canadien? Il y a énormément d'entreprises qui n'en font plus parce qu'ils se disent « Je vais-tu en vendre après? » Mais là, on se retrouve coincé parce qu'une grande partie de notre économie revient à l'import-export avec les États-Unis. À la fois, les États-Unis disent « OK, on va faire du nationalisme, on va utiliser nos produits sur place. » Mais en même temps, c'est « On arrête d'acheter chez vous. »
Ils n'en produisent presque pas d'aluminium, c'est ridicule.
Non, c'est parce qu'au niveau de l'histoire des États-Unis, dans leur système économique, c'est on va garder nos ressources pour acheter ailleurs. Comme ça, quand la crise, quand toutes les autres vont être vidées, là,
on va en avoir.
Donc, nous, on va en vendre. Donc, c'est ça le principe. Donc, ils font ça avec l'aluminium, ils font ça avec le bois, ils font ça avec tout ce que...
30 secondes.
On est dans... OK, depuis le début de la crise, on dit ça va bien, mais là, moi, je me dis, restez aux nouvelles, parce que... Pensez un peu à vous, pensez à comment vous allez fonctionner.
Pensez en collectivité aussi, arrêtez de penser.
Attends, non, mais c'est ça. Pensez à nous, je ne dis pas penser à son foyer, je pense à notre communauté. Je pense à notre manière de vivre avec les autres au niveau local. Arrêtez de parler à l'international. Pensez à ce qui se passe ici. C'est intéressant.
Merci beaucoup, Joannie Riendo.
Je peux-tu finir un point? Deux secondes.
Tes deux secondes, ça dure toujours une minute.
Au début de l'émission, on a parlé de plein de points positifs. C'est ça que je veux appuyer. Les points positifs, ça surtout au niveau local, on a des bons coups ici. Appuyons-nous là-dessus, mais surveillons ce qui se passe à l'extérieur pour protéger nos acquis.
Pour apprendre, pour comprendre. Merci beaucoup, Joannie Riendo. C'est toujours un plaisir de t'avoir à cette table. On se revoit, nous, dans deux semaines.
Oui!
Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se voit la semaine prochaine avec l'honorable Jules Simard qui sera avec moi. Passez une bonne semaine. Bye!